fidèle. Allume en eux le feu de ton amour. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Dieu qui par les illuminations du Saint-Esprit a instruit le cœur de tes fidèles, rends-nous toujours fidèles à ce même esprit afin d'éprouver ce qui est juste et bon, et donne-nous toujours d'éprouver le réconfort de sa présence par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen. Amen.
Or donc, nous sommes tous des êtres spirituels parce que nous avons reçu l'Esprit. Enfin, c'est pas pour cela qu'on doit avoir des états d'âme qui viennent 99 fois sur 100 de notre subjectivité. Il y a des gens qui sont imaginatifs. Donc inversement, pour nous, ne disons pas que nous ne sommes pas spirituels, nous le sommes. Sinon, on prend le Seigneur pour un andouille. Comment cela nous est-il communiqué? Dieu veut nous donner, dans le fond, peut-être qu'on n'en parle pas assez dans les paroisses de ça, voilà, Dieu nous a fait à son image, à sa ressemblance, il veut faire de nous des dieux, nous faire participer à ce qu'il est, participant de la nature divine, comme dit Saint Pierre dans sa deuxième lettre, le prologue de sa deuxième lettre. C'est quelque chose qui nous dépasse de tous côtés, quoi. On ne comprend pas trop ce que ça veut dire. Ce que je vous disais, pour aller vers Dieu, c'est-à-dire où tu ne sais pas, il faut passer par où tu ne sais pas. Il n'y en a qu'un seul qui connaît le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, autant se laisser prendre par la main par Jésus. Alors voilà, tout ça, ça doit développer en nous l'accent d'une vie intérieure. Et ça ne nous est pas communiqué tout cela de façon éthérée, mais par des signes bien concrets, parce que nous sommes des êtres de chair, parfois très cher avec l'inflation, par les sacrements. Et donc nous avions commencé à voir les sacrements, le premier qui nous greffe sur le milieu divin, qui nous donne l'esprit et qui chasse nos ténèbres, c'est le baptême. Alors là aussi la constatation, c'est pas de la magie, ça va mettre une vie entière à se développer, la grâce sacramentelle du baptême en nous. Puis nous avions vu le sacrement qui est tout à fait au bout, et c'est une chose absolument folle, c'est un sacrement qui nous unit à Dieu, c'est l'Eucharistie. Ouais, alors je me rappelle quand j'étais gosse, personne ne venait communier. Et maintenant, tout le monde communie sans se poser de questions. Alors, vous voyez, c'est pas rien, puisqu'il s'unit, c'est vraiment Dieu qui s'unit à nous. Alors, tout le reste, permettrait d'ouvrir une parenthèse sur le sacrement de confession. Voilà, quoi, de se réconcilier avec lui. Et à ce propos, je vais fermer la parenthèse de suite. J'ai gardé de quand j'étais enfant, c'était l'époque où les curés pouvaient faire des enseignements dans les églises, là, pour le mois de Marie, entre autres, de Notre-Dame de Fatima, qui demandait aux enfants de Fatima de dire aux gens qu'il fallait se confesser une fois par mois. Donc, voilà, c'est un rythme à prendre, une fois par mois. Puisque ça nous est demandé comme ça. Alors, ce que nous recevons, c'est Jésus qui s'unit dans le fond à nous. Bon, ce qui est dans la chair, ça peut être souvent trivial et conduire à des bêtises, mais voilà, il y a une union à Dieu qui est très pure, à tel point que même, vous savez qu'il y a une semence divine. Bon, la semence humaine, on sait comment elle est, quoi, avec un flagelle. Et la semence divine, c'est l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il nous donne? La divinité. Il nous fait compte de la divinité. Et il nous donne la pureté infinie de Dieu. C'est une semence qui virginise. C'est fou. Hein? C'est contraire au sens, c'est contraire à la chair. Et pourtant, c'est cela. Et voilà pourquoi Marie est toujours vierge. Elle est vierge avant, parce que dans son Immaculée Conception, on avait développé le thème, parce qu'elle est très pauvre. Donc elle se reçoit de Dieu elle reçoit l'Esprit, et l'Esprit lui donne constamment la pureté de Dieu. Dans le fond, la pureté de la Vierge Marie, c'est pas la sienne, c'est celle de Dieu. C'est fou. Voilà. Dieu est fou. Hein. C'est des choses qui nous... Vous voyez, ça explose, ça nous dépasse de tous les côtés. Et nous donne sa propre pureté. Et nous sommes appelés à ça, quoi, à recevoir cette pureté de Dieu, pour en recevoir sa vie. Et entre donc ces deux sacrements, un qui chasse nos ténèbres et qui va mettre toute une vie à chasser nos ténèbres, le baptême, et un autre qui est prévu pour nous unir à Dieu, nous faire partager la vie divine, et donc à l'instant je vous disais éventuellement aussi sa pureté divine. Entre les deux, ben, nous avons le sacrement, le troisième sacrement de l'initiation chrétienne, qui est la confirmation que pour l'instant nous n'avons pas encore abordé. Et la confirmation, donc, nous confirme, hein, dans, comme son nom l'indique, dans le milieu divin. Et là aussi, il y aurait des choses, il y a des choses qui font frémir au niveau de l'Église. C'est que les gamins sont préparés à la confirmation, puis après, ils ne foutent plus les pieds à l'Église. Alors, ils devraient être confirmés intérieurement. C'est ça que comporte la grâce du sacrement de confirmation. Ça les confirme dans cette existence de Dieu, et on en parle en connaissance de cause, parce qu'on le connaît. Je puis affirmer que Dieu existe parce que j'ai été confirmé dans... Voilà, je sais qu'il existe, hein, par le Dieu vivant devant qui je me tiens. C'est ce qui fait les martyrs aussi. Hein. On leur demande de renier, mais ils ont vu quelque chose de plus grand. Ils ont compris, de par leur cœur, quelque chose d'infiniment plus grand. Ça devient insupportable de renier. Donc, voyez, le sacrement de confirmation va porter en lui quelque chose qui fait que, ben déjà, il y a, on pourrait dire, une sorte d'union primordiale avec Dieu. Et on le connaît, hein, comme quand on est intime avec une personne et qu'elle nous dévoile un peu les secrets de son cœur, on la connaît, cette personne. Le sacrement de confirmation contient cela. À tel point qu'on appelle cela un sacrement à caractère. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le caractère? Le mot latin, c'est sphragis. Et qu'est-ce que c'est que la sphragis en latin? Ben, c'était un mot profane, hein, qui n'a rien à voir avec la religion. Quand un type était engagé comme légionnaire, il était marqué au fer rouge. Alors si le type était déserteur, on lui dit, voilà, mets-toi torse nu. On dit, tu vois, bien que tu mentes, tu appartiens à l'empereur. T'es marqué de façon indélébile du sceau de l'empereur. Alors il y a deux sacrements, il y a trois sacrements à caractère dans l'Église qui nous marquent de façon indélébile. On est marqué du signe de Dieu, c'est le baptême, la confirmation et le sacrement de l'ordre. Si on est ordonné prêtre. Voilà, ce sceau n'est pas visible dans la chair, mais notre âme est marquée. Et même si je quitte le sacerdoce pour une petite brune ou une grande blonde,
une rousse moyenne,
ben, il n'y a rien à faire, quoi, je suis marqué. Il y a la marque divine qui est indélébile. Dieu s'est engagé et vraiment, hein, bon, le sceau de l'empereur, ben, c'était un subalterne qui marquait le bonhomme. Mais là, je suis marqué par Dieu lui-même qui, de son côté, s'engage. Et voyez, c'est un sceau. Alors, prenons une autre image du sceau. Le sceau dans la cire. Ça imprime l'image. Et le sceau que me donne Dieu, ça imprime en moi l'image divine. Hein, nous citions la parole de Saint-Pierre dans le prologue de sa deuxième lettre, de Pierre 1,4. Hein, il nous a fait participants de la nature divine. C'est-à-dire, si j'accepte les grâces sacramentelles, toujours pareil, on a notre liberté, ben, ça imprime en moi la forme divine. Je pense, je raisonne, j'aime, comme le Christ. Ça commence avec le baptême et ça se poursuit avec la confirmation. Et vous vous rappelez de la parole de Saint Jean de la Croix, « Allons-nous voir dans votre beauté sera la mienne. » Ça veut dire que la beauté de Dieu a été imprimée dans la personne qui a accepté que Dieu agisse en elle. Vous voyez entre parenthèses qu'on est loin d'une certaine image du christianisme où il faut être gentil, il faut être bien, c'est infiniment plus. Et Dieu ne se fout pas de nous parce qu'il nous fait participer à ce qu'il est. Et comme on ne sait pas ce que c'est exactement, ça nous dépasse de tous les côtés, mais nous n'avons pas d'autre solution que de lui obéir, de se laisser transformer par lui petit à petit, ce n'est pas des choses spectaculaires. Alors vous aurez ça très bien dans le catéchisme de l'Église catholique. Par exemple, j'avais noté dans le catéchisme de l'Église catholique, le sceau est un symbole proche de celui de l'onction. C'est en effet le Christ que Dieu a marqué de son sceau, et c'est en lui que le Père nous marque aussi de son sceau. Parce qu'elle indique l'effet indélébile de l'onction de l'Esprit-Saint dans les sacrements du baptême, de la confirmation de l'ordre. L'image du sceau, ce que vous disiez le nom latin, sphragis, c'est marqué dans le catéchisme, a été utilisée dans certaines traditions théologiques pour exprimer le caractère ineffaçable imprimé par ces trois sacrements qui ne peuvent être réitérés. On ne peut pas réitérer le baptême ou la confirmation puisqu'on est marqué. Ça voudrait dire que Dieu s'exprime mal ou le fait mal. Alors, si vous avez fait du catéchisme, si vous avez accompagné des gamins à la confirmation, c'est peut-être arrivé à quelques-unes d'entre vous. Bon, on dit aux gamins, reprenant la parole d'Isaïe 11, chapitre 11, « Un rejeton jaillira de ses racines, sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse, esprit de discernement, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance et esprit de la crainte du Seigneur. » Bon, ça faisait des ordres, il n'y en avait que 6, on en a rajouté un 7e. Donc on a rajouté la piété. Donc, comme ça, c'est... Mais voyez-vous, ce qui est donné, c'est le même état d'esprit que le Christ et que lui-même a reçu du Père. Et donc, le résultat, c'est que ce sacrement de confirmation va nous imprimer en nous, toujours pareil, on peut être tellement raide que dans le fond, rien ne peut s'imprimer en nous. Cette docilité à Dieu. Mais si nous acceptons petit à petit de nous laisser envahir par Dieu, la façon d'être, le mode d'être de Dieu nous sera donné. Ce qui est exprimé à travers ces 7 dons de l'Esprit. Ça va, c'est clair? Peut-être que ça doit tout vous surprendre, ces choses-là, mais c'est que peut-être on n'en a jamais entendu parler. Mais c'est fou, C'est fou, parce que pour finir, on entend parler des sacrements, on va prendre des sacrements, puis sans trop réaliser ce que Dieu veut faire à travers cela, Et vous voyez combien ça nous replace tous dans un esprit de disponibilité au Seigneur, qu'il puisse agir au plus profond de nous-mêmes. Ça nous place dans un esprit d'humilité. Ça nous place aussi face à notre incapacité de tout saisir, de tout comprendre. Et cela nous repousse de nouveau encore plus dans une disponibilité, une profondeur pour que le Seigneur agisse réellement en nous. Et si vous voulez l'inverse de tout cela, c'est par exemple ce que nous lisons en ce moment, c'est le livre de l'Exode. Voilà un peuple, c'est ça aussi l'itinéraire spirituel. Nous partons d'une situation d'esclave, et vous avez compris que le pire esclavagiste, c'est nous-mêmes. parce que nous partons sur des idées préconçues, il faut être comme ci, il faut être comme ça. Et lui veut nous rendre libres. Et souvent nous préférons cette situation d'esclave comme le peuple hébreu. Au moins on avait les oignons en Égypte. Il n'y avait pas les patates à l'époque, elles étaient en Amérique. Et donc il veut nous amener vers une situation de liberté. Et cette situation de liberté où il veut amener son peuple, ben, ça va demander 40 ans à travers le désert. Ça fait les deux tiers d'une existence. Et pour les amener dans ce pays où ils seront libres. C'est tout l'itinéraire intérieur dans le fond. Et les anciens des premiers temps du christianisme ne s'y sont pas trompés. Hein. Je vous parlais de Saint Grégoire de Nice. Vous vous rappelez, la Cappadoce, la Turquie, etc., là, au IVe siècle. Qui a son ouvrage, un des ouvrages les plus connus de Grégoire de Nice, c'est La vie de Moïse. Alors il y a une collection sur les textes anciens, que, évidemment on ne connaît pas un grand public, qui s'appelle Sources chrétiennes. D'un côté il y a les textes soit en latin soit en grec, et de l'autre la traduction et puis des commentaires. C'est fait par des gens savants. Et on doit être, ça a commencé avant-guerre, oui, environ 600 volumes. Et vous dire si l'ouvrage est important, c'est pour cette raison que je vous le cite, c'est l'ouvrage numéro 1B, La vie de Moïse de Grégoire de Nice. Et alors il prend sous prétexte quoi, le livre de l'Exode pour nous montrer que, voilà, c'est pas que Moïse, c'est nous aussi. Nous sommes entraînés à travers un itinéraire de vie qui nous fait passer d'un esclavage de façon d'être pour nous rendre libres. Je suis venu pour que l'homme ait la vie et qu'il l'ait en abondance. Et donc nous rencontrons nous aussi, sous un certain rapport, ce qu'a rencontré le peuple hébreu au cours de ses purifications. Et donc, entre autres, je vous avais un peu parlé de cela, mais là, ça ressurgit très profondément, c'est que, vous vous rappelez, le peuple hébreu, pof, il y a une nuée, hein, il y a la nuée le jour, et puis la colonne de feu la nuit. Voilà, alors nous rentrons plus ou moins dans un paysage désertique, et là, vous l'avez chez Saint Paul. Souvenez-vous qu'après l'illumination des premiers temps, vous avez connu les assauts de la souffrance, chez Saint Paul. Ou encore, chez Saint Paul, ils ont été baptisés dans l'eau de la mer Rouge et dans la nuée de la colonne lumineuse. Donc d'une certaine façon, c'est des expressions symboliques, mais qui font comprendre. Ça doit nous aider aussi dans notre vie. Et nous rentrons parfois dans des paysages de vie qui sont assez ténébreux, assez nocturnes. Hein, il dit pourtant, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, etc. Et c'est pas pour autant qu'il n'est pas là, mais ce sont des passages où il nous purifie, et donc, à travers le sacrement de confirmation, vous le comprenez, où il s'imprime encore plus fortement en nous. Et seulement, bon, pour ce qui est uniquement de notre sensible, là, c'est déroutant. Alors, tout cela, ça peut être accompagné de circonstances existentielles. Il peut y avoir des ennuis de famille, il peut y avoir des ennuis de santé, il peut y avoir des ennuis professionnels. Ça, c'est les conditions extérieures, mais qui font qu'on perd pied, on n'a plus qu'un appui, c'est lui. Et alors à ce moment-là, il peut nous imprimer tout doucement ce qu'il est lui. Et quand nous en ressurgissons vers déjà une amorce de terre promise, ben, nous ne sommes plus les mêmes. Ben, nous sommes dégagés de nous-mêmes et nous découvrons des choses que spontanément, ben, nous n'aurions pas cherché, nous n'aurions pas pensé à ces choses-là. Je vous cite, je vous ai souvent cité Élisabeth de la Trinité parce que je l'aime beaucoup. Elle dit dans un de ses écrits, Élisabeth de la Trinité avait comme la petite Thérèse, hein, elle a vécu très peu de temps. Bon, l'une c'est la même époque, la petite Thérèse a précédé de quelques années, l'une c'était à Lisieux et l'autre c'était à Dijon. Et bon, on lui a demandé d'écrire des choses quand elle était sur son lit avant sa mort, quoi. Donc c'est des écrits à 25, 26 ans de maturité, quelques mois avant de mourir. Donc elle dit, « Nous sommes devenus siennes par le baptême. » C'est ce que saint Paul veut dire par ses paroles. Il les a appelés, oui, appelés, à recevoir le sceau de la Trinité. En même temps que nous avons été faites, selon le langage de saint Pierre, participantes de la nature divine. Nous avons reçu un commencement de son maître. Puis il nous a justifiés, par ses sacrements, par ses attouchements directs, dans le recueillement au fond de notre âme. Et toujours dans le même écrit, l'image de Dieu imprimée dans l'âme est en effet constituée par la raison, la mémoire et la volonté. Tant que ses facultés ne portent pas l'image parfaite de Dieu, elles ne lui ressemblent pas comme au premier jour de la création. La forme de l'âme, c'est Dieu, qui doit s'y imprimer comme le sceau dans la cire. comme la marque sur son objet. Or, cela ne se réalise pleinement que si la raison est complètement éclairée par la connaissance de Dieu, que si la volonté est enchaînée à l'amour du bien souverain, que si la mémoire est pleinement absorbée dans la contemplation et la jouissance de l'éternelle félicité. Donc, en ce qui nous concerne, à travers toute vie, je pense que c'est notre vie de relation à Dieu qui lui permet, si vous voulez, de nous diviniser. Si nous sommes toujours occupés que de ce qui nous, des choses extérieures, vu qu'il garde, il respecte notre liberté, il ne pourra rien se produire. Et voyez-vous, si nous nous ouvrons à ce qu'il veut réaliser en nous, par la prière, par une disponibilité intérieure, serait-ce aussi que par le fait, souvent ça nous arrive, hein, on dira, ben oui, on n'est pas heureux, parce qu'on dit, oui, je voudrais savoir prier, etc. Bon. Mais rien que ça, c'est de la prière. Ça veut dire qu'on le cherche. Et si on le cherche, il ne va pas se faire tartir. Il va venir et petit à petit changer notre façon de voir les choses. Ou encore à sa prière, elle disait avant de mourir, « Mère, la fidélité que le maître vous demande, c'est de vous tenir en société avec l'amour. C'est de vous écouler, de vous enraciner en cet amour qui veut marquer votre âme du sceau de sa puissance et de sa grandeur. » Ou alors la petite Thérèse, dans un poème, le poème numéro 20, « Ta face est ma seule richesse, dit-elle à Jésus. » Je ne demande rien de plus, en elle, me cachant sans cesse, je te ressemblerai au Jésus. Laisse en moi ta divine empreinte de tes traits remplis de douceur, et bientôt je deviendrai sainte, j'attirerai à toi les cœurs. Bon, c'est des expressions poétiques maintenant, ça m'étonnerait que les gamines sachent faire de la poésie à l'école, mais c'était une époque où on apprenait à faire de la poésie. Bon. C'est quand même assez extraordinaire, vous voyez, c'est exprimé en quelques mots. La sainteté, ce n'est pas au bout, je vous disais, de nos efforts à faire par nous-mêmes, mais au bout de nos efforts à nous laisser faire par lui, hein, ce qui est totalement différent. Donc si on le laisse disponible, il imprime sa façon d'être en nous, et c'est à ce moment-là qu'on devient saint. Et si je suis saint, et dans le fond, si je me laisse féconder par son amour, rappelez-vous de l'Eucharistie, eh bien à ce moment-là, j'engendre des tas d'âmes pour la vie éternelle. C'est le sens même de la vie contemplative. Sinon, ça ne sert à rien. C'est pour cette raison que ça demande quand même une vigilance au niveau ascétique, parce que sinon, on peut avoir une vie qui est beaucoup plus cool que celle des gens dans le monde. On n'a pas le souci du travail, on n'a pas le souci des gosses, etc. quoi. Mais on est là...
Disponible.
Hein, disponible, et puis pour un besoin fondamental dans l'Église. Je suis vierge et pourtant des âmes, je suis mère de virginale fleur qui sauve les pécheurs. Ça, c'est encore la petite Thérèse. Et vous comprenez? Alors bon, c'est la vocation spécifique d'une âme contemplative, mais nous aussi, nous avons tous, vous voyez, on va souvent chercher midi à 14h, et quelle est la prière que je dois dire? Comme s'il y avait des formules magiques. Il n'y a pas de formule magique. Dieu est beaucoup plus simple que ça. C'est uniquement le désir intérieur de le recevoir, et petit à petit... Nous rendons bien compte par nos comportements. Si on n'y fait pas d'obstacle, eh bien à ce moment-là, il nous donne sa façon de voir, de comprendre et le désir de sauver les âmes. Bon, j'ai tas d'autres citations, je ne veux pas vous en abreuver, vous avez compris le principe. Et ça vous permet de revisiter ces trois grands sacrements, qui sont les trois sacrements qui nous initie, on comprend bien ce que ça veut dire, au mystère de Dieu, et non pas de l'extérieur de façon intellectuelle, mais en nous faisant participer à ce qu'il est dans son cœur, dans le cœur, où il veut nous, dans le fond, nous métamorphoser d'un être simplement psychique vers un être qui est toujours là dans son corps et à travers ce qu'il a à faire, mais qui est mu d'une autre façon. Vous vous rappelez de ce que je vous disais dans Jean de la Croix? Exprimé de façon poétique, je sortis dans la plaine et je ne connaissais plus rien. Et je quittais les troupeaux que je suivais jusque-là, le troupeau des idées, des façons de voir, des façons de comprendre, parce que j'ai découvert quelque chose qui est infiniment plus, mais à travers quelque chose de simple dans le quotidien. Et donc là, véritablement, la vie spirituelle a pu se déployer en nous. Donc vous commencez à percevoir, là, c'est le dernier volet, comment faire croître, puisqu'il nous donne tout par ces trois sacrements, comment laisser croître cette vie spirituelle en nous. Si c'est compliqué, c'est pas du bon Dieu. C'est des shadoks, sûrement, mais ce n'est pas du bon Dieu. Et on peut arriver, et on doit pouvoir arriver, il y en a qui y arrivent, au sommet de la vie spirituelle en étant un trisomique. Et puis on peut être un prix Nobel et puis passer à côté de tout cela. Vous voyez, le danger parfois, c'est que certaines personnes s'imaginent parce qu'elles sont très cérébrales, mais pour finir, elles sont prisonnières. Je vous dis, le pire des geôliers, c'est nous. Puisque je comprends avec ma tête, et bien restons, voilà, c'est... Je saisis de Dieu ce que j'en comprends avec ma tête. Et vous voyez, on va à l'inverse de l'abandon. Comprenez, celui qui a rien, eh bien, il est ouvert à d'autres dimensions d'être. Et à ce moment-là, il peut se laisser instruire. Alors évidemment, on peut être prix Nobel de physique et puis être très croyant et être un saint. Hein. Mais je vous dis, souvent, il arrive qu'on voit que les gens qui s'imaginent pouvoir s'appuyer sur leurs propres dons naturels, qui du reste viennent de Dieu, et qui sont là pour le service de leurs frères, eh bien, pour finir, ils se bloquent en eux-mêmes et puis ils passent tout à fait à côté. Donc plus vous comprenez que ce qu'il nous donne, c'est plus que royal comme cadeau, c'est divin, et ce ne peut se développer en nous que si nous sommes accueillants de ce don qu'il nous fait. Alors ça demande des choses en nous, ben voilà, qui vont être de la simplicité du quotidien, puisque Dieu est simple. Donc ça va conduire à, forcément, nous qui avons cette tendance à être compliqués, mais par exemple une parole qui est perverse, qui nous bloque en nous-mêmes. « Oh ben moi je suis beaucoup trop petit. » C'est pas vrai, c'est un mensonge. Je veux dire, comme ça je trouve un confort à m'enfermer en moi-même. Justement, il est venu chercher les petits. Si réellement tu étais petit ou tu étais petite, ben à ce moment-là, et pauvre, eh ben tu serais accueillant du don de Dieu. C'est que quand nous disons cette parole, c'est un mensonge total.
Et honté.
Et honté. Combien de fois on l'entend, oh ben moi je suis pas fait pour ça, je suis beaucoup trop petit, tiens mon cul. Il est venu pour les tout petits. Tu ferais mieux de dire la vérité, que tu es trop grand et que c'est beaucoup plus confortable de t'enfermer en toi-même. Ça permet de revisiter les péchés, par exemple le mensonge. Et souvent on pense au mensonge, bon, on dit je suis allé à droite alors qu'en fait on est allé à gauche. Pour nous c'est le mensonge, mais ça c'est des mensonges beaucoup plus graves parce que nous mentons à nous-mêmes. Et nous mentons, et du coup nous bloquons dans notre ego, et qui empêche Dieu d'agir en nous. Peut-être l'avantage de la trisomie, c'est que voilà, toutes ces barrières psychologiques et sociologiques, et etc., tout ça, ça a sauté, alors à ce moment-là, on peut rentrer directement en relation avec lui. Donc ça met aussi en évidence, ce que je vous disais, le paysage de la prière. Non pas tant la prière avec des choses à réciter, ou etc., que un fond de relation aimant avec Dieu, à travers tout ce que nous avons à faire, à travers notre boulot, et à travers nos diverses occupations. Ce que je dis, j'ai dû vous le dire plusieurs fois au Pélé, pour justement décomplexer, parce que là aussi on se fait des tas d'illusions sur la vie de prière. Bon, mais si j'aime mon épouse... Ben, si je suis absorbé par mon travail et que je n'y pense pas, je l'aime quand même. On n'aime pas à heure fixe, c'est pas parce que j'ai un boulot prenant qu'il vaut mieux que je sois bien attentif pour pas me couper les doigts ou que sais-je, moi. Si je commence à rêver en manipulant le massicot, on risque de passer à plus que deux doigts de la catastrophe, hein, tout entière. Mais c'est pas pour autant que j'aime moins la personne. Et inversement, lui peut se manifester parfois de façon sensible au moment où on s'y attend le moins. Ce qui faisait dire à Thérèse d'Avila qu'il y avait bien, voilà, par exemple, une personne spirituelle et mystique. Donc mystique au sens où elle est entrée dans le mystère. Parce que si nous sommes spirituels, nous entrons aussi dans le mystère de Dieu, vous l'avez compris, à travers ce sacrement. Bon, mais elle avait pas les deux pieds dans les mêmes sandales, parce qu'elle ne portait pas de sabots, c'était les carmélites des chaussées. Ben, elle disait, on trouve le bon Dieu dans les casseroles. Il peut se manifester au moment, justement, comme on exprime, on n'a pas de barrière ou des choses auxquelles on s'attend, etc. Juste au moment où on ne s'y attend pas et que nous ne proposons rien, il va se manifester, peut-être au moment où on fait la cuisine, ou je sais pas, on déambule dans la rue et puis tout d'un coup. Alors ça oui, parce qu'il y a quand même une intervention extérieure, un beau paysage. Et vous voyez, bon, c'est sûr que.
C'est une prière, hein.
Mais bien sûr. C'est que je me dis souvent là, à travers, là, comme je rentre d'Oloron, il y a cette université populaire, laïque, et plus ou moins anticléricale. C'est chouette qu'il m'ait devant la tête. Bon Dieu. Je me dis quand même, ces types-là, ils aiment, ils rendent hommage au bon Dieu, ils sont tous des amoureux de la nature, pratiquement tous, ou de l'art. On rend hommage à celui qui a fait ça, même sans le vouloir. Et, ben, c'est peut-être pas au niveau conscient, au niveau structuré, mais voilà. Et donc, inversement, Jean de la Croix aimait beaucoup les jeunes, il les amenait faire oraison dans la nature. Et mine de rien, la plus belle voûte de cathédrale, c'est le ciel. Hein. Et surtout la nuit. Voilà, alors donc, ça vous permet aussi de vous dégager de complexes bidons que l'on a sur la prière. Et que peut-être, et même certainement, le Seigneur se donne abondamment à vous, et c'est vous qui bloquez par le fait que vous voudriez avoir une forme particulière de prière. Je vous dis, ça confine un peu à la magie, quoi. Je dis telle prière, telle formule, et puis à ce moment-là, il doit se passer quelque chose. Non, Dieu est libre. Demande uniquement, si vous voulez, la disponibilité, l'ouverture du cœur. Et à ce moment-là, toutes ces grâces sacramentelles que nous avons reçues commencent à se déployer. On le perçoit ou on ne le perçoit pas. Là aussi, hein, méfiez-vous de... Une chose qu'avait compris la petite Thérèse, donc, ce qui la rend si importante, bon, elle s'exprime à travers un peu des paroles de gamine, hein. Mais ça a aussi la fraîcheur de l'enfance, puisqu'elle est morte jeune. Et bon, ce qui est très important pour nous, c'est qu'elle n'avait aucun moyen. Et rappelez-vous, bon, il m'appelle à la sainteté, il ne m'a donné aucun moyen, c'est donc c'est lui qui veut réaliser. C'est pas moi. Et alors on va trouver ces paroles simples chez la petite Thérèse, et avec des mots du vocabulaire du quotidien, quoi. C'est la confiance et rien que la confiance qui conduit à l'amour. Voilà une parole fondamentale. On obtient du Seigneur autant qu'on en espère, ça c'est de Saint Jean de la Croix. Et donc si plus j'ai confiance en lui, plus à ce moment-là, vous voyez, j'y oppose de résistance, de choses que je veux tenir, et à ce moment-là, il peut agir en moi. Et donc plus j'ai confiance en lui, plus il peut s'imprimer, puisque nous connaissons maintenant le fait par les sacrements à caractère, baptême et confirmation, et plus il peut s'imprimer en moi. J'ouvre une autre parenthèse. Là. Bon, la mode maintenant, beaucoup souvent dans les paroisses, et chez nous aussi, c'est des études et des études et des études et des études dans des instituts catholiques. Alors il y a des trucs pour les laïcs, il y a des trucs pour les prêtres, etc., etc. Ça restera que des choses de tête. Et on peut éventuellement s'appuyer uniquement sur des connaissances livresques. Et ça n'apportera rien. Alors, il nous a donné l'intelligence naturelle. Nous en avons chacun des moyens différents. Mais ce n'est pas par l'intelligence naturelle simplement, c'est par le cœur. Et donc, le cœur peut ensuite être... Ça peut remonter au niveau de notre intellect. C'est ce que nous avons fait ces jours-ci, pour comprendre que la façon dont il agit. Mais si ça ne reste qu'au niveau de la tête, on fait des gens instruits et mais qui n'auront rien compris pour finir le mystère. Et, depuis 30 ans que je suis en religion, grosso modo, j'ai toujours été frappé de voir des gens qui ont fait des tas d'études, qui sont très instruits et qui, pour finir, n'ont rien à dire, et puis des petites personnes qui en sont restées au catéchisme de leur enfance, mais qui ont eu, sans trop le comprendre, cette vie de relation à Dieu. Ben, c'est des personnes, rien qu'à leur contact, en quelques minutes, on est nourri. Donc, voyez-vous, c'est pas des choses compliquées. Il nous est tout donné dans les sacrements, et la seule chose qu'il nous demande, c'est donc ces choses toutes simples, de lui faire confiance, et de s'abandonner. Et je vous cite là la petite Thérèse. Jésus se plaît à me montrer l'unique chemin qui conduit à la fournaise divine de l'amour. Ce chemin, c'est l'abandon du petit enfant qui s'endort sans crainte dans les bras de son père. Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi, a dit l'Esprit Saint par la bouche de Salomon, Et ce même esprit d'amour a dit encore que la miséricorde est accordée aux petits. En son nom, le prophète Isaïe nous révèle qu'au dernier jour, le Seigneur conduira son troupeau dans les pâturages, qu'il rassemblera les petits agneaux et les pressera sur son cœur. Et comme si toutes ces promesses ne suffisaient pas, le même prophète, dont le regard inspiré plongeait dans les profondeurs éternelles, s'écrie au nom du Seigneur, comme une mère caresse son enfant, « Ainsi je vous consolerai, je vous porterai sur mon sein, je vous caresserai sur mes genoux. » Isaïe 66, 12, 13. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher des choses compliquées. Il nous donne tout. Il ne demande qu'à exprimer son amour. Donc confiance, abandon, et ce qui permet à ces grâces sacramentelle de se déployer, et donc vous le comprenez à terme, si nous étions assez humbles, de nous diviniser. Et cette parole, vous savez, nous rentrons dans ces discussions avec nous-mêmes, je ne perçois rien, est-ce la bonne voie, tout ça, puis on rentre dans une forme d'hésitation qui conduit au doute, et le doute peut conduire aussi à tout laisser tomber. Parce que nous sortons de de ces choses simples, de la confiance, de l'abandon. Il ne peut pas se donner. Et donc, comme disait un auteur inconnu des premiers siècles, l'hésitation est la fille du diable. Facile à retenir. L'hésitation est la fille du diable. Parce que tout ce questionnement intérieur que nous nous posons, l'hésitation est la fille du diable. Vous savez, ça peut très facilement se voir au niveau vocationnel. Quelqu'un est appelé. Alors, que veut faire le démon? Il dit, ouais, peut-être que, alors, dans le fond, c'est toi qui, c'est subjectif, tu ne peux pas appeler. Puis, ah oh, ben, il y a cette congrégation, là, c'est pas mal. Puis, ça aussi, ça te conviendrait. Puis, pour finir, la personne ne fait rien. Il a gagné. Mais l'essentiel, c'est d'avancer. Et puis, si on se trompe, le Seigneur nous le montre. Qu'on rentre, par exemple, au séminaire, qu'on rentre dans un ordre religieux, il y a ce qu'on appelle un postulat, on postule, après on est novice, et dans tout ce temps, il y a un discernement pour peaufiner, si vous voulez, exactement quel type de vocation. Et c'est pareil, je pense, au niveau laïque aussi, quoi. On hésite, etc., puis pour finir, on fait rien, ou on rentre, vous avez compris, dans tous ces doutes concernant notre vie de prière, etc. Alors, soit le démon nous fait monter, soit au contraire, il nous place dans des situations où le Seigneur, quelle que soit la situation, il se débrouille pour que le Seigneur ne puisse pas nous prendre. Donc il nous fait sortir de cette confiance simple, et cet abandon simple qui fait que ces grâces sacramentelles qui nous divinisent sont inopérantes. Et si on n'y arrive pas, il faut demander à Jésus. Il est celui qui nous attire vers lui et celui qui nous aide sur le chemin. Pour nous simplifier, pour nous abandonner, pour faire confiance. Et voyez ce qu'est la profondeur, dans le fond, de la vie de relation à Dieu, ce que nous appelons la vie de prière. Voilà. Et vous comprenez ce qu'est cette vie spirituelle et combien nous en sommes aussi les acteurs. Ce qu'il veut nous donner, et dans le fond, nous sommes gagnants dans la mesure où nous lui accordions la confiance pour qu'il puisse réaliser cette œuvre merveilleuse en nous. Qui nous dépasse, c'est normal, de tous côtés.